VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour cette édition de 18h30, temps universel. Bonsoir à tous, voici les titres. Au Sénégal, deux jours de deuil national après la tuerie de 13 jeunes ce week-end en Casamance. En Côte d'Ivoire, reprise du procès de Jean-Noël Abéi, accusé d'avoir voulu renverser Alassane Ouattara en fin 2012. En RDC, cinq activistes du mouvement Filimbi, toujours en détention à Kinshasa depuis le 30 décembre. L'actualité, c'est encore les manifestations en Iran, créent des dissensions au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans l'actualité économique, la BCEAO dément les rumeurs sur le franc CFA et bien sûr les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Sénégal, la rébellion indépendantiste du mouvement des forces démocratiques de Casamance a condamné le massacre samedi de 13 personnes dans le sud du pays. Alors que la traque des assaillants se poursuit, cette rébellion a démenti toute implication. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le Sénégal observe aujourd'hui et demain un deuil national décrété par le président Macky Sall. Sur son site d'information, le MFDC a condamné le massacre samedi de 13 personnes. La rébellion indépendantiste demande aux autorités sénégalaises d'orienter leur enquête vers des responsables administratifs et militaires locaux. Le mouvement les soupçonne d'être à la tête d'un réseau de coupes clandestines et de ventes illicites du bois, de teck. Le teck est un bois précieux recherché surtout pour la fabrication de ponts de bateau. La rébellion lie ce massacre à un conflit entre des scieries locales dont la concurrence a instauré une atmosphère délétère entre les employés. Le mouvement dit continuer dans sa dynamique d'ouverture au dialogue pour une issue heureuse au conflit casamançais vieux de 35 ans.
Et nous y reviendrons dans la partie magazine. La reprise ce lundi à Abidjan du procès d'une dizaine de gendarmes soupçonnés d'avoir voulu renverser en décembre 2012 le pouvoir d'Alassane Ouattara. Au nombre des prévenus, l'ex-commandant de l'escadron blindé de la gendarmerie ivoirienne, Jean-Noël Abéi. Les accusés risquent la prison à perpétuité à Abidjan. Les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Ils sont 16 au total, gendarmes et civils, dans le box des accusés. Ils sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. En clair, ils sont accusés d'avoir mené le 23 décembre 2012 une attaque contre le principal camp de gendarmerie d'Abidjan, le camp d'Agban. Une opération qui devait conduire au renversement du président Ouattara. Tous, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, Jean-Noël Abéi, ex-patron du groupement de l'escadron blindé de la gendarmerie ivoirienne, nie les faits qui leur sont reprochés. « Je suis un officier loyal. Pendant plus de 15 ans, je me suis consacré à la défense de l'autorité de l'État. Je ne suis pas un putschiste », se défend Jean-Noël Abéi. Mais il y a ces preuves brandies par l'accusation, comme cette vidéo enregistrée en avril 2012 et dans laquelle le colonel Abéi, alors réfugié au Ghana, s'autoproclame chef de l'État après avoir dissous au passage toutes les institutions de la République. Jean-Noël Abéi, ainsi que le maréchal des logis Félix Sokla, considéré comme l'un des cerveaux de cette attaque de décembre 2012, et les 14 autres prévenus, encourent la perpétuité s'ils sont reconnus coupables. Verdict attendu en fin de semaine. Au palais de justice d'Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique.
Au Niger, un tribunal militaire a renvoyé au 23 janvier le procès de militaires poursuivis dans un putsch présumé de décembre 2015. Le point avec Eric Manirakiza.
Le tribunal militaire a reporté le procès à la demande des avocats des prévenus. C'était à marge de la première session ouverte aujourd'hui dans un camp de la gendarmerie à Niamey. Une dizaine de militaires sont concernés. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Assoumi Massoudou, avait soutenu détenir suffisamment de preuves, notamment des échanges de SMS et des correspondances. Le président Mahamadou Issoufou avait affirmé le 17 décembre 2015 qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée pour justifier l'arrestation de 12 militaires, 3 douaniers et une dizaine de civils. Parmi les militaires figurent le général Souleymane Salou, ancien chef d'état-major, le colonel Idi Abdoudan Awa, commandant de la base aérienne de Niamey, le commandant Naré Maïdoka, chef du bataillon d'artillerie de Tillabéri, Issoufou Oumarou, commandant d'une force spéciale logée à la présidence, et le capitaine Amadou Chekaraou, autre responsable d'une unité d'élite basée au nord de la capitale. Fin mars 2017, le juge en charge du dossier avait libéré une dizaine de civils, dont des opposants, bénéficiant d'un non-lieu partiel.
En République démocratique du Congo, 5 activistes d'un mouvement opposé au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila sont détenus à Kinshasa depuis plus d'une semaine. Leur avocat a donné l'information et dénonce une détention irrégulière. Ces membres du mouvement Filimbi ont été arrêtés le 30 décembre par des agents de l'Agence nationale de renseignement. Et de l'autre côté du fleuve au Congo, Brazzaville annonce de la fin de la grève depuis 4 mois à l'université de Brazzaville. Didier Galbaï, le porte-parole de l'intersyndicale, a indiqué que 3 mois de salaire ont été versés, puis 50% des primes pour les heures supplémentaires de l'année 2015 à 2016. La grève a été suspendue parce que la solution proposée permet de continuer les négociations pour ne pas bloquer le service, a-t-il ajouté. En Afrique du Sud, le Parlement a annoncé qu'il allait étudier cette semaine la procédure de destitution du président de la République, Jacob Zuma. Le mois dernier, la Cour constitutionnelle reprochait à l'Assemblée nationale de ne pas avoir demandé de compte au président Zuma dans le cadre du scandale sur sa résidence privée et l'utilisation de près de 15 millions d'euros d'argent public pour rénover sa maison. Mercredi et jeudi, les élus vont donc commencer à se pencher sur les règles de destitution. Et toujours en Afrique du Sud, 61 personnes, c'est le nombre de personnes décédées de la listériose dans ce pays en l'espace d'un an. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé. Un précédent bilan faisait état de 36 morts. 727 cas ont été confirmés depuis janvier 2017. La listériose est une maladie infectieuse due à la bactérie Listeria qui se transmet le plus souvent à l'homme par l'intermédiaire d'aliments contaminés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, effectuera à compter du 20 janvier une délicate tournée au Proche-Orient qui le mènera en Égypte, en Jordanie, puis en Israël. Initialement prévu fin décembre, ce déplacement a été repoussé sur fond de vives tensions dans la région après la décision unilatérale du président Donald Trump de déclarer Jérusalem capitale d'Israël. Dissension au sein du Conseil de sécurité sur les manifestations en Iran qui ont fait au moins 21 morts et de nombreuses interpellations. Les 15 membres se sont réunis vendredi sur demande des États-Unis, mais le ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé l'initiative américaine et il n'a pas été le seul. Anastasie Tudies.
Une autre gaffe de politique étrangère de l'administration Trump, a tweeté Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, soutenu par la Russie, la Bolivie, l'Éthiopie ou la Guinée équatoriale. L'ambassadeur russe a estimé que c'est à l'Iran de régler ses problèmes, dénonçant une ingérence dans les affaires intérieures de ce pays. « La situation ne menace pas la stabilité régionale », a ajouté Wu Haiteo, ambassadeur adjoint chinois à l'ONU. De son côté, la représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley, a jugé que le régime iranien bafoue les droits de son peuple en dépensant pour l'armement. Pour le Royaume-Uni, une réunion du Conseil de sécurité sur l'Iran est tout à fait légitime. Le président français Emmanuel Macron, soutenu par la Suède et le Pérou, a plaidé quant à lui la modération. Il a mis en garde contre un risque de guerre si les discours belliqueux des États-Unis, d'Israël ou de l'Arabie saoudite se poursuivent. Téhéran et Riyad sont à couteau tiré depuis plusieurs années.
Et Téhéran met en garde la communauté internationale sur une possible sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la communauté internationale doit se préparer à une possible sortie des États-Unis de l'accord nucléaire d'ici quelques jours. Le président américain Donald Trump dénonce régulièrement l'accord et a refusé à la mi-octobre de le certifier, le qualifiant de l'un des pires jamais conclus par les États-Unis. Le Koweït a annoncé qu'il accueillera le mois prochain une conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak en coopération avec la Banque mondiale et le secteur privé. Le vice-ministre koweïtien des Affaires étrangères, Khaled Al-Jarallah, a dit que malgré les blessures du passé, une référence à l'invasion irakienne du Koweït en 1990, son pays avait un devoir moral, humanitaire et arabe de soutenir son voisin. La stabilité de l'Irak, c'est la stabilité du Koweït et de la région, a-t-il déclaré. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont arrivés en fin d'après-midi à Pékin où ils ont été reçus par le président Xi Jinping et son épouse. Pour sa première visite en Chine, le président français a salué les nouvelles routes de la soie, projet colossal d'infrastructure lancé en 2013. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Les principales économies émergentes d'Afrique se sont beaucoup endettées au troisième trimestre de 2017. Le poids de la dette publique a connu une forte évolution en Égypte, au Nigeria, Kenya, Ghana et en Afrique du Sud. L'Institute of International Finance dit que l'essentiel dans l'endettement de ces pays est le fait des gouvernements. La dette globale des gouvernements, des ménages, des sociétés financières et non financières a atteint le record de 230 milliards de dollars à la même période. Selon la Banque mondiale, en 2017, 60% des jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le monde sont au chômage. Cette catégorie a constamment augmenté en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. L'inclusion sociale, économique et politique reste essentielle pour insérer la jeunesse dans le marché du travail, car le chômage nourrit les mécontentements et les troubles sociaux et politiques. Enfin, une voiture intelligente et intuitive sur les marchés mondiaux à partir de 2019. Byton dévoile demain l'automobile du futur à Las Vegas au salon de l'électronique. Ce véhicule sera doté d'un écran panoramique consacré à la navigation et au divertissement. Il inclura une connexion 5G et de multiples fonctions d'intelligence artificielle et sans pilote. Avec une autonomie électrique de plus de 500 km, la recharge de la batterie se fera en 15 à 30 minutes. Après la Chine en 2019, ce modèle sera lancé en 2020 aux États-Unis et en Europe à un prix d'environ 45 000 dollars.
Maintenant, la page sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir.
Oui, bonsoir Raïssa. Bonsoir à tous.
C'est officiel et signé, Coutinho est barcelonais.
En effet, l'ancien joueur de Liverpool qui est devenu samedi le troisième footballeur le plus cher de l'histoire. Tenez-vous bien, 120 millions d'euros la signature, plus 40 millions de bonus selon la presse. Coutinho s'est engagé jusqu'en 2023 lors d'une cérémonie aujourd'hui au Camp Nou. Philippe Coutinho a signé au FC Barcelone. Le Brésilien aura pour mission de faire oublier son compatriote. Neymar, il a déclaré que cette signature était un rêve et un honneur.
Et une autre pépite européenne, Harry Kane à Tottenham.
Oui, Tottenham ne peut pas espérer retenir Harry Kane sans faire d'efforts financiers. C'est ce qu'a estimé aujourd'hui son entraîneur Mauricio Pochettino. Selon la presse britannique, Kane, qui a signé en 2016 un nouveau contrat qui court jusqu'en 2022, reste un joueur modestement payé, seulement 6 millions d'euros annuels. C'est peu au regard des salaires de la Premier League. Les récentes louanges de Zinedine Zidane ont fait naître en Angleterre la crainte de voir l'international partir pour le Real Madrid dans un proche avenir.
L'actualité sportive, c'est aussi une saison blanche ou presque pour Andy Murray en tennis.
Oui, l'ancien numéro 1 mondial Andy Murray vise un retour sur les courts pour la saison sur gazon disputée à partir de juin après son opération à la hanche droite subie en Australie. L'Écossais, absent du circuit ATP depuis 6 mois, avait été contraint la semaine dernière de déclarer forfait pour l'Open d'Australie.
Et enfin la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, les Lakers de Los Angeles ont retrouvé le chemin de la victoire après 9 défaites consécutives en surclassant Atlanta 132 à 113. À l'ouest, San Antonio et Oklahoma City ont en revanche mordu la poussière. Les Spurs sans Tony Parker ménagé, ni Kawhi Leonard à nouveau blessé. se sont inclinés de justesse à Portland, 110 à 111. Le Thunder, lui, est tombé de haut à Phoenix, 114 à 100. Enfin, les Knicks de New York se sont imposés à Dallas, 100 à 96. Ils signent leur 19e victoire de la saison. Ils se rapprochent des places qualificatives pour les playoffs.
C'était Nicolas Pinault pour la page sport. Merci beaucoup.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le Sénégal observe deux jours de deuil national aujourd'hui et demain, après l'assassinat de 13 jeunes en Casamance, une tuerie qui intervient au moment où la situation sécuritaire s'est nettement améliorée et que le processus de paix a beaucoup progressé ces dernières années. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance a nié toute implication dans ces meurtres. De Dakar, la correspondance de Sédina Abagué.
La violence a ressurgi en Casamance au moment où on s'y attendait le moins. Cependant, Salou Sambou, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, affirme que cet événement dramatique ne remet pas en question le processus de paix.
Nous étions très avancés dans le processus de paix et on a été surpris de voir une telle brutalité et une telle ignominie. Maintenant, il faut attendre pour voir qui a pu commettre cette bévue et pourquoi. Parce que nécessairement, il y a une cause. Donc, il faut être persévérant, être patient et faire en sorte que ça ne puisse pas impacter négativement sur le processus de paix. Et je ne pense pas, parce que le président lui-même s'est prononcé, dit que ça n'a rien à voir avec le processus de paix qui va continuer.
Amadou Saraba, ancien correspondant de l'agence de presse sénégalaise à Ziguinchor, rappelle que des événements similaires s'étaient déjà produits il y a quelques années dans la même zone.
Généralement, c'est des périodes très douloureuses. Il y avait eu une attaque de ce genre. C'était à Diagnon. C'était, je me rappelle, le 21 novembre 2011. 10 jeunes coupeurs de bois avaient été massacrés à quelques kilomètres entre la frontière bissau-guinéenne. Mais le jour, on a assisté à des scènes vraiment terribles parce que les populations avaient accusé le choc.
L'ancien gouverneur Salou Sambou estime qu'il est essentiel de renforcer la sécurité dans la partie sud du pays afin de rassurer les populations.
Mais en fait, il faut qu'on renforce la sécurité au niveau de la Casamance parce que la zone malade du Sénégal. Et c'est là où les djihadistes peuvent entrer. Ils peuvent même, ça peut leur donner des idées avec ce qui s'est passé. Ça peut leur donner des idées et ils peuvent s'approcher. Nous ne savons même pas qui est qui.
Face aux multiples accusations, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance s'est démarqué de cet acte et a fermement condamné ces violences. En attendant les conclusions de l'enquête, le président de la République a décrété deux jours de deuil national en mémoire des victimes. À Dakar, Sédina Abagué pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24. Au Bénin, la situation reste tendue entre les magistrats béninois et le gouvernement. Au cœur du litige, le retrait du droit de vote aux travailleurs de certains secteurs, dont celui de la justice. En effet, le 28 décembre dernier, les députés ont procédé au vote de cette loi, encore à l'étude à la Cour constitutionnelle. Et pour marquer leur désaccord, les magistrats béninois ont décidé de paralyser les tribunaux sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au retrait de cette loi. Des précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
L'année 2018 démarre sur des notes sombres sur le plan social au Bénin. Ce sont les magistrats qui annoncent les couleurs avec une grève illimitée 5 jours sur 5. Freddy Yawissi est le porte-parole de l'Union nationale des magistrats du Bénin. À travers une déclaration présentée à la presse, il a précisé les circonstances dans lesquelles la décision a été prise.
L'UNAMAM fustige cette manœuvre consistant à troquer le droit de grève contre les avantages en nature ou en espèces. Ne pouvant tolérer un recul démocratique, elle décide d'observer, à compter du lundi 8 janvier 2018, jusqu'au retrait de cette disposition liberticide de la nouvelle loi portant statut de la magistrature, un mouvement de grève, de protestation de 5 jours, tacitement reconductible du lundi au vendredi.
faut dire qu'en 2014, l'Assemblée nationale avait enfin tenté de retirer le droit de grève aux magistrats, prétestant du fait que la Cour constitutionnelle avait affirmé que le droit de grève, bien que fondamental, n'est pas absolu. Aujourd'hui, les travailleurs ne comprennent pas que Joseph Diogbenou, qui à l'époque s'est illustré par des actions musclées pour dire non au vote d'une telle loi, soit aujourd'hui l'instigateur en sa qualité de ministre de la Justice.
Il n'était pas question d'introduire des dispositions retirant le droit de grève aux agents en question. Personne n'en revenait, mais on a compris que, comme nous sommes à l'ère de la ruse et de la rage, le garde des Sceaux a utilisé la ruse pour nous abattre avec rage.
Mais le ministre Joseph Diogbenou, malgré les critiques tendant à le montrer comme un homme sans conviction, capable de remettre en cause ses aspirations les plus profondes, reste imperturbable. Sur la chaîne de télévision nationale, il a exprimé toute la volonté du gouvernement à attacher du prix au respect de la loi si la Cour constitutionnelle l'a déclaré conforme à la Constitution. Vendredi dernier, le tribunal de Cotonou laissait paraître un avant-goût de la grève qui démarre ce lundi. Les usagers déplorent la situation et appellent les deux parties à s'asseoir autour d'une table de négociation au lieu de pénaliser les populations.
Non, je ne sais pas ce qui est revendiqué concrètement, mais à mon humble avis, ce n'est pas trop satisfaisant.
Je crois que la grève est malvenue. Ceux qui sont programmés, je ne sais pas quand est-ce qu'on va les programmer encore. Ils n'ont qu'à négocier avec le gouvernement.
Si les magistrats doivent détenir le droit de ces détenus qui ne sont pas encore jugés au détriment de leurs intérêts, je vois que c'est pas trop bien.
Les travailleurs du secteur de la justice ne sont pas les seuls soucis du gouvernement. Toutes les centrales syndicales annoncent une grève générale pour les jours à venir. Seule façon de dire non à la restriction des libertés des travailleurs béninois. De Cotonou, Jeanette Floyd Dandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Situation précaire dans la région de Paoua en Centrafrique où 35 000 personnes ont été déplacées par des violences récentes entre Exceleka et RJ ayant fait des dizaines de morts. La ville de Paoua voit arriver tous les jours de nouvelles personnes fuyant leur village incendié. Pour plus de détails, Nathalie Barge a joint le président préfectoral de la jeunesse de Luampandé, Vianney Ngbara.
Ces derniers temps, dans la sous-préfecture de Paoua, il y avait une attaque des éléments de Seleka contre les éléments de RJ dans les sous-préfectures, c'est-à-dire les communes périphériques de Paoua. Et pendant cette conflit, il y avait plusieurs morts et il y avait aussi plus de 2000 maisons qui ont été incendiées. Il y a aussi présentement à Paoua, nous avons presque même 35 000 déplacés qui sont là, qui vivent dans des conditions précaires, qui n'ont aucune assistance. Et jusqu'à l'heure actuelle, nous avons plusieurs personnes dans les villages sont en train de venir dans la localité de Paoua.
Comment sont-elles soutenues justement ces personnes si elles n'ont pas d'assistance humanitaire ?
Jusqu'alors, il n'y a aucune assistance. Parce qu'il y avait à peine deux jours, il y a le ministre de la Défense, celui de la Sécurité, ils étaient venus, ils ont tenu une réunion à Paoua. Et jusqu'alors, il n'y avait personne qui s'occupe de ces déplacés. Donc, certaines vivent dans les familles d'accueil et d'autres se retrouvent dans des écoles.
Et qu'en est-il de la situation sécuritaire aujourd'hui dans la région ?
Présentement, il y avait, à Paoua Centre, il y avait les troupes militaires qui faisaient la patrouille et dans les périphériques, dans les communes. Il n'y avait même pas de patrouille, donc ces personnes qui se retrouvent là-bas, ils ont fui leur maison parce que leurs maisons ont été pillées, brûlées. Donc, ils sont tous au niveau de Paoua. Donc, la situation sécuritaire est vraiment très, très, très précaire. Il y a plusieurs femmes, des enfants qui souffrent, des femmes enceintes. Les femmes sont en train de vivre dans des conditions difficiles. Les enfants, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux. Parce que les hôpitaux sont brûlés, les écoles sont brûlées. La situation est vraiment très, très grave.
D'après vous, les forces de sécurité donc, ne sont pas du tout dans ces villages pour sécuriser ces lieux actuellement ?
Aucune force de la sécurité nationale qui est dans ces villages-là. Parce que vous voyez, Paoua se trouve vers la frontière entre le Tchad. Donc, Paoua n'est pas loin de Tchad. Donc, vous voyez que la frontière est vide. Il n'y a aucune sécurité qui est dans cette région-là. Donc, il y a seulement la force de la MINUSCA qui est basée seulement à Paoua et dans les périphéries, dans les villages, aux frontières, il n'y a personne, il n'y a aucune sécurité.
Le président préfectoral de la jeunesse de Luampandé, Vianing Bara, joint à Paoua, en Centrafrique.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Le pape François a reçu ce lundi l'ensemble des ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège pour le traditionnel discours des vœux au corps diplomatique. C'était l'occasion pour lui de faire le point sur les grands dossiers internationaux. Pour en parler, Jacques Aristide s'est entretenu avec le père Janvier-Marie-Gustave Yameogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au secrétariat pour la communication du Vatican.
Il a souligné que c'est une belle coutume. Le pape a insisté sur les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qu'il a qualifié de base d'une diplomatie multilatérale. Et il a rappelé aussi les objectifs du Saint-Siège, à savoir favoriser le bien-être spirituel et matériel de la personne humaine et la promotion du bien commun. Mais je voudrais insister sur deux aspects principalement. C'est la promotion de la vie et la défense du droit à la vie. Et le pape a souligné que des nouveaux droits sont arrivés suite aux bouleversements sociaux de 1968. Et on en est venu à instaurer des formes modernes de colonisation idéologique des plus forts et des plus riches au détriment des plus pauvres et des plus faibles. Il insiste même sur des droits violés, à commencer par le droit de la vie, la liberté et l'inviolabilité de chaque personne humaine. Et il évoque notamment les enfants rejetés avant de naître, les personnes âgées considérées comme un poids, les femmes violentées, les victimes de la traite. Il insiste sur la promotion d'un droit à la santé pour tous en favorisant l'accès aux soins à des prix accessibles. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voudrais insister est également l'urgence de réelles politiques de soutien aux familles. Parce qu'on sait comment, surtout en Occident, la famille est considérée comme une institution dépassée. Et malheureusement, a commenté le pape François, on préfère des liens fugaces à la stabilité d'un projet définitif.
Il a également fait un tour d'horizon des points chauds de la planète, y compris des régions d'Afrique. Qu'est-ce qui préoccupe précisément le Saint-Siège en ce qui concerne le continent africain?
Il a effectivement tout un paragraphe concernant le continent africain et il appelle la communauté internationale à ne pas oublier les souffrances de nombreuses parties du continent africain. Spécialement, il a cité le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo, la Somalie, Nigeria, la République centrafricaine, où justement, il insiste, le droit à la vie est menacé par l'exploitation abusive des ressources, par le terrorisme, par la prolifération de groupes armés, par des conflits persistants. Et il ne suffit pas de s'indigner face à tant de violences, il faut plutôt que chacun, dans son domaine propre, œuvre activement pour éradiquer les causes de la misère et pour construire des ponts de fraternité, conditions fondamentales d'un développement humain authentique, a dit le pape. Il a évoqué l'Afrique effectivement aussi en matière de migration, en saluant les efforts et l'engagement de nombreux pays en Afrique qui font des efforts pour accueillir les migrants à leurs frontières. Et cela, je pense que c'est une bonne chose de le souligner parce que souvent on voit les migrants qui viennent vers l'Europe, vers l'Occident, mais on oublie la migration intérieure, interne, en Afrique même. Et le pape salue les efforts des peuples pour accueillir et intégrer ces personnes réfugiées et migrants.
C'était le père Janvier-Marie-Gustave Yameogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au secrétariat pour la communication du Vatican.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et ainsi va le monde aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console Alfredo Santos, à la présentation Raissa Girondin. On reste connecté sur Facebook et également sur notre site voaafrique.com. Excellente suite de programme. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.